FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio G 101.5 FM et vous écoutez l'étudiant Time, l'émission faite par des étudiants et pour les étudiants. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau tous les trois réunis, ça faisait longtemps. Comment ça va les filles ?
Ça va très bien et toi Robin ?
Ça va super, et toi Rim ?
Oui, très bien.
Parfait, donc nous sommes également accompagnés de Julien que nous questionnerons à propos de son journal La Topette. Comment ça va Julien ?
Ça va, merci beaucoup pour l'invitation.
Ah ben un plaisir. Et du coup, avec un titre de journal comme ça, tu vas très certainement t'entendre avec notre très cher Pierre Benoît qui anime l'émission Topette. D'ailleurs, il est venu présenter Topette.
Salut.
Bonjour. Bonjour. Mais du coup, Topette, qu'est-ce que c'est un petit peu pour nos auditeurs ?
Ah ben Topette, ça peut être plein de choses en Anjou. Hein. C'est beaucoup pensent au journal déjà de base, mais je pense que tu parles de l'émission en l'occurrence.
Topette, bien sûr.
Donc c'est le nom de la quotidienne de Radio G. Donc c'est tous les soirs de 18h10 à 19h, sauf le vendredi pour partir en week-end plus tôt. Et c'est du coup une quotidienne radio qui est un peu, on va dire, généraliste, qui porte sur le local principalement, qui cherche à donner la parole aux acteurs du Angevin, mais alors vraiment sur différents thèmes. Là, on n'est pas vraiment dans le journalisme, contrairement à La Topette qui fait vraiment du travail d'investigation. Nous, c'est presque du divertissement. C'est des Angevins, des Angevines qui font l'actualité, mais pas forcément sur des sujets d'information, juste simplement des gens qui ont des initiatives, que ce soit sur le tourisme, le patrimoine, l'histoire. Alors ça, c'est pour le volet, c'est pour le lundi notamment, c'est aussi sur la culture, puisqu'on a des partenariats culturels avec le Quai, le Chabada, le Théâtre de l'Hôtel de Ville. Donc on donne la parole à toutes ces personnes qui ont de l'actualité, que ce soit des structures ou des personnes individuelles. Et puis c'est agrémenté de petits podcasts, de chroniques aussi du cru, hein, c'est des gens du cru qui font ça, sur différents thèmes également. Ouais.
D'accord, bah super. Bah, quoi, Topette ou La Topette, c'est forcément des productions locales. Au sommaire aujourd'hui, ça sera uniquement l'interview justement de Julien de La Topette, le journal de La Topette qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui pour ces 30 minutes. Les filles, ça vous va qu'on fasse que lui poser des questions et vous ferez vos émissions la prochaine fois ?
Oui, au contraire,
pas de soucis,
c'est un plaisir.
Je suis sûr que vous aurez plein de questions à lui poser.
Oui.
Allez, maintenant, place à l'interview. Donc merci Julien de venir au micro de Radio G. Et du coup, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Radio G ou pas du tout ?
Non, il y a plein d'autres super émissions sur Radio G. On a eu la chance de venir présenter La Topette, parce que nous, ça fait un an et demi qu'on existe, donc on a bien été soutenus par Radio G qui nous a invités à plusieurs reprises, donc on connaît bien les locaux.
D'accord. Bah justement, donc, La Topette, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu ?
Oui, alors La Topette, c'est un journal qui est trimestriel, donc qui paraît tous les trois mois, qui est diffusé uniquement sur format papier. On est vendu en kiosque et aussi par abonnement, au prix de 3 euros. Et on se définit comme un journal local, populaire, indiscipliné. Alors pourquoi ? Parce que local, déjà parce qu'on se limite aux frontières de l'Anjou. On fait des reportages dans tout le département du Maine-et-Loire. Populaire parce qu'avant tout, on s'intéresse à la vie des gens qui habitent le département, la vie des gens qu'on pourrait appeler ordinaires. Et aussi indiscipliné parce qu'on a on va être un peu un poil à gratter dans l'actualité locale, c'est-à-dire faire de l'investigation, faire des révélations, parce que malheureusement, la presse, magazine, en général, se désintéresse de ce qui se passe en province. Elle est beaucoup concentrée sur Paris. Et on pense qu'il y a quand même des choses à révéler ici, des choses à expliquer aux lecteurs. Et c'est vraiment dans un souci démocratique qu'on fait ce travail d'investigation au niveau local.
D'accord, oui. En plus, votre dernier numéro vient de sortir. Il est sorti la semaine dernière, je crois, avec justement, oui, exactement ce que vous disiez, avec des enquêtes d'investigation, avec aussi de l'histoire locale, avec notamment des portraits un peu de que ça a été de paysans, je crois, dans les dernières.
C'est ça, on a suivi en fait deux nonagénaires pour voir un peu comment notre département évoluait. Donc, on a pris un monsieur qui s'appelle Louis, qui a 96 ans, qui a toujours habité dans le quartier de la Doutre, à Angers, et on a un peu fait une balade avec lui pour voir qu'est-ce qui avait évolué. On se rend compte qu'avant, il y avait beaucoup d'usines, beaucoup de commerces. Les gens vivaient vraiment dans leur quartier et tout a changé. On a suivi aussi une dame du côté de Villiers qui, elle, est dans un petit village où il y a un peu les mêmes problématiques, en fait, où pareil, l'emploi local, le commerce local s'est délocalisé pour aller sur des plus grands pôles. Et c'est intéressant aussi de voir avec nos aînés comment nos territoires ont pu évoluer au fil des décennies.
D'accord. Ah oui, donc quand même, forcément, de nombreux sujets à traiter. Mais ça, c'est un peu ça apparemment le travail de journaliste. Et pour les étudiants du coup qui nous écoutent, la question je pense que beaucoup se posent, c'est comment est-ce qu'on devient journaliste ? On peut commencer par votre parcours avec justement, j'ai compris que vous êtes sorti du lycée, un lycée général je crois, et arrivé à l'université, qu'est-ce que vous faites? Vous savez déjà que vous voulez être journaliste ou est-ce que vous papillonnez un petit peu à la recherche de votre futur métier?
Alors, il y a 10 000 parcours pour faire journaliste. Alors, pour vous répondre, moi, effectivement, j'avais pensé très tôt à faire du journalisme, donc dès le lycée. Il se trouve qu'en général, la porte d'entrée à la voie royale, c'est de faire ce qu'on appelle une école de journalisme reconnue. C'est une école qui recrute à partir de Bac plus 3. Donc d'abord, perso, j'ai fait une licence d'histoire parce que notamment, ça, à mon avis, permettait d'obtenir une bonne culture générale. Aussi, il y a des techniques de recherche qui se retrouvent ensuite dans le métier qu'on fait. Et ensuite, on intègre ces fameuses écoles sur concours qui ensuite, notamment, permettent d'ouvrir des stages, des emplois vers des grandes rédactions. Après, c'est pas forcément la seule façon de faire. Et heureusement, c'est de mieux en mieux. J'espère qu'il y aura de plus en plus de journalistes qui ne suivent pas cette voie-là, parce qu'il peut y avoir aussi le risque d'être un peu formaté, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a justement pour les jeunes de plus en plus de médias différents, de possibilités avec les podcasts, avec les vidéos sur YouTube, de justement s'entraîner avant. Et je pense que dans les années à venir, ça va quand même changer et il y aura des gens qui ne sont pas issus du sérail, entre guillemets, parce que, comme je le disais, il y a un peu un risque de formatage. Et on voit, en tout cas, dans la population qui a le lien en train de se dégrader entre les médias traditionnels et la population, et justement l'arrivée de ces gens qu'on utilisait, qu'on jouait avec de nouveaux formats peut peut-être permettre de revivifier un peu la crise qu'est en train de vivre la presse actuellement.
Je vois, oui.
Oui, justement, je voulais vous demander par rapport à ça, est-ce que c'est pas possible, par exemple, pour une personne ou un jeune qui a du talent et qui écrit bien, de pouvoir faire, par exemple, un petit stage ou une petite formation et intégrer directement le journal, par exemple, en période d'essai, puis travailler avec vous?
Alors, oui, c'est possible, mais ça l'est de moins en moins, malheureusement, parce que les journaux essayent de réduire les coûts au maximum, et quand ils recrutent des stagiaires, en fait, ils veulent déjà des gens opérationnels. C'est regrettable. Après, ça se fait encore. Moi, il y a un des journalistes de la Topette qui est rentré comme ça, qui est rentré dans un journal au début sans avoir fait d'école. Il avait déjà des petits CDD, etc. Après, il a quand même fait une école, mais il y a quand même des possibilités. Et justement, il faut que les gens soient curieux. C'est intéressant d'avoir des profils différents. C'est un peu, moi, j'ai fait quand même pas mal de grosses rédactions à Paris notamment, et on retrouve un peu toujours les mêmes profils de gens qui viennent de Paris, qui sont très éduqués. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de diversité dans les rédactions. Et c'est à vous aussi de pas avoir peur, parce que journaliste, c'est beaucoup d'opportunités à saisir, beaucoup de chances. Donc, faut pas avoir peur, c'est ce que je dirais aux journalistes, d'aller frapper aux portes, de passer des coups de fil et voilà, et de tenter sa chance.
Vous avez fondé le journal à deux avec donc vous, Julien Collinet et Marie Amonneau, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui, elle, a eu un parcours assez différent, qui n'a pas eu la voie royale, entre guillemets, comme vous avez eu, qui, elle, est plutôt passée par une faculté, c'est ça?
Ouais, c'est vrai que Marie, elle n'a pas fait d'école reconnue, elle avait passé les concours, mais c'est quand même assez dur, il y a très peu de gens retenus. Et du coup, elle a choisi de faire un master en journalisme. Alors, elle a été en Belgique, à Bruxelles, parce qu'il y a des masters qui sont pas payants, tout est public, et qui donne une formation universitaire. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'elle a une autre manière de bosser aussi. Justement, sa façon est peut-être plus d'aller chercher dans des rapports, d'avoir un travail de recherche qui est différent. Et en soi, à l'école, on apprend surtout des techniques de journalisme, mais ces techniques de journalisme, on les apprend où vraiment? C'est sur le terrain, c'est quand on applique le métier. On progresse beaucoup plus, je pense, en faisant un stage que ces fameuses écoles dont je parlais.
Mais justement, parce que c'est ce que je me demandais, est-ce que c'est possible aussi de passer simplement en dehors d'une formation journalistique, en ayant simplement des capacités de rédaction et d'aller par des stages, par des petits emplois, par passer par le pigisme, etc., pour réussir à faire sa place, même si c'est beaucoup plus difficile, j'imagine, qu'une école de journalisme?
Oui, je pense complètement. Comme je le disais, c'est un métier très technique. Alors après, c'est surtout des qualités qu'il faut avoir, c'est d'être curieux notamment, d'être ouvert, de savoir se remettre en cause, de douter aussi, parce que c'est beaucoup ça le journaliste, c'est pas avoir des idées préconçues et les restituer dans un article, c'est être à l'écoute des autres et remettre en question souvent ce qu'on pense. Et justement, ouais, comme je le disais, alors le marché est très fermé parce que la presse va mal, c'est pas une nouveauté, mais voilà, il y a des expériences comme vous faites tous les trois ici à Radio G, sur des blogs. Par exemple, Marie a commencé, elle, en faisant un blog quand elle était encore lycéenne. Ça lui a un peu donné l'envie d'écrire. Elle a appris aussi des techniques d'interview, etc. Il y a plein de moyens de développer ses facultés. Et après, ouais, l'idée justement de quand on fait des stages, quand même, les gens sont en général passionnés par ce métier et trouver va avoir un contact assez privilégié avec quelqu'un dans une rédaction. C'est quelqu'un qui peut ensuite guider les futurs prétendants à être journalistes à réaliser ce métier. Et effectivement, c'est un métier où les portes d'entrée sont très diverses. Vous parliez du pigiste. Alors un pigiste, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un journaliste indépendant, c'est-à-dire qu'il va être payé pour un article qu'il fait. Donc souvent, ouais, c'est aussi un bon moyen, de quand on a une bonne idée, un bon article, d'essayer de le vendre à un journal et ensuite de rentrer, de mettre un pied dans la porte.
Et donc, après ces années en tant qu'employé pour des journaux, vous et Marie avez décidé de créer votre journal. Pour quelles raisons ?
Alors, il y a plein de raisons. Effectivement, je n'ai pas parlé de mon parcours avant, mais moi, suite à mon école, je suis rentré. D'abord, j'ai fait de la télévision. J'étais journaliste pendant plusieurs années à Canal+, comme reporter. Ensuite, je suis parti en Belgique, où j'étais rédacteur en chef d'un journal économique. Et c'est le cas aussi, parce qu'il y a un autre journaliste qui a participé que nous à la fondation du journal. On a eu une forme de désillusion par rapport à notre métier, parce qu'on a quand même un regard assez critique sur ce boulot, et on avait l'impression de plus le faire comme on pouvait. En tout cas, nous, ça nous est arrivé. Il faut savoir aussi, ce que je pourrais dire aux jeunes journalistes, c'est qu'il faut être prêt à se faire virer à tout moment quand on veut bien faire son métier, parce que des fois, on se prend des murs. Il y a des pressions de toutes parts qui fait qu'on ne peut pas révéler certaines informations. Et du coup, en étant employé, c'était un peu le problème. On avait un peu l'impression de s'épuiser à se battre contre des moulins tout le temps. Et il y a eu aussi un événement quand même qui a été très fort dans le lancement de la Topette. Ça a été le mouvement des Gilets jaunes. Parce que nous, on venait tous de territoires qu'on peut appeler périurbains ou ruraux. Et on voyait avec les mêmes problématiques qui pouvaient se passer sur le traitement de ce qui pouvait se passer dans les quartiers. Il y a vraiment une déconnexion entre comment restituer l'information et ce que vivent les gens. Nous, comme on vient de ces milieux-là, on comprenait tout à fait les revendications qu'il pouvait avoir pendant ce mouvement social, mais quand on lisait dans les articles, il y avait une forme de jugement, une forme de mépris envers cette population qui se révoltait pour des raisons qu'on peut juger juste ou non. C'est pas la question, en fait. Nous, en tant que journalistes, on doit juste traiter d'une chose et justement pas émettre de jugement. Et il y avait un tel décalage qu'on s'est dit que l'information locale était vraiment un moyen de parler de ce que vivent les gens au jour le jour, de ce qu'ils vivent au quotidien. Et du coup, on s'est lancé dans la Topette. On avait eu avant, ensemble, des idées de lancer nos propres journaux, mais on n'a jamais trouvé vraiment la formule. Et un jour, on a vu l'existence d'un journal qui s'appelle Le Postillon, qui est à Grenoble, et dont on s'est vraiment inspiré. Et donc, c'est un journal papier, pareil, qui existe depuis une quinzaine d'années, donc qui est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire derrière, il appartient aux journalistes qui font ce journal. Il n'y a pas de publicité, comme nous, parce que malheureusement, la publicité, ça peut être un moyen de pression sur le contenu éditorial des journaux. Et ça, c'est très important pour nous d'être complètement indépendant. Et voilà, c'est un peu cet amas d'idées, de rejet du métier, pas de rejet, parce qu'on adore ce boulot, mais en gros, de nous être rendu compte des limites qu'il pouvait avoir au niveau de ce boulot et du rôle démocratique de la presse, parce que c'est important, il faut qu'il y ait de la pluralité de la presse. Plus il y a de titres, on peut juger comment se tient une démocratie au nombre de titres de presse qu'il existe, et c'était aussi mettre cette pierre à l'édifice, et voilà, puis de s'amuser, parce que vraiment aujourd'hui on fait les sujets qui nous intéressent, qui nous semblent importants, qui nous semblent essentiels pour le débat public, et voilà, c'est beaucoup de travail de faire un journal, mais nous on s'amuse beaucoup, et on n'a jamais eu autant l'impression d'aussi bien faire notre métier qu'actuellement.
Oui, en parlant des sujets justement, est-ce que vous avez une méthodologie de choix des sujets? Comment ça se fait?
Alors les sujets, on en a plein, on a plein d'idées. À chaque fois, il y a une centaine d'idées de sujets pour chaque numéro. Il faut faire du tri. Des fois, on est obligé de les repousser. Déjà, il faut que ça nous plaise en fait, parce que pour se lancer dans une enquête, nous on paraît que tous les 3 mois, c'est pas comme quand on travaille dans un journal quotidien où on écrit tous les jours. Il faut quand même avoir envie de se lancer dedans et d'être un peu motivé pour aller interviewer des dizaines de personnes, éplucher des rapports, etc. Donc ça, c'est le premier critère, c'est que ça, on soit intéressé. Donc on a un peu tous nos marottes au sein de la Topette. Ensuite, on essaie de trouver un équilibre entre les villes et les campagnes, parce que effectivement, souvent le milieu rural est un peu le grand oublié des récits médiatiques. Et après, c'est essayer de trouver cet équilibre aussi entre des sujets économiques, politiques, sociaux. Et c'est un petit mix qui se fait au fur et à mesure, parce qu'il y a souvent des enquêtes qu'on va lancer et qu'on va abandonner ou qu'on va repousser, parce que on essaie que nos papiers soient vraiment béton, de faire des articles de qualité. Donc des fois, des enquêtes, ça va beaucoup moins vite que prévu, ou une info qu'on nous a donnée, elle s'est révélée pas si intéressante qu'on pensait. Et puis il y a une dernière chose qui arrive de plus en plus depuis qu'on existe, maintenant ça fait un an et demi, et il y a une vraie forme de sympathie, on a vraiment des retours extrêmement positifs des lecteurs, et il y a de plus en plus d'articles qui nous sont directement proposés par des lecteurs qui nous écrivent, qui font un peu une forme de veille citoyenne, qui vont, parce qu'on est malheureusement que deux à écrire actuellement, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans le département, donc souvent des lecteurs vont nous alerter sur tel ou tel sujet, et c'est d'autant plus enrichissant parce que voilà, nous on a fait des études, tout ça, et des gens par exemple qui sont dans la précarité, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'ils vivent, et justement que ces lecteurs puissent nous offrir leur regard sur la société, et que nous on va essayer de creuser la question qu'ils nous ont formulée, ça apporte une certaine richesse, je trouve, dans le contenu éditorial du journal.
Mais justement, le fait que ça soit en papier, ça nous permet aussi de découvrir les très beaux dessins qu'il y a sur quasiment, qu'il y a sur chaque numéro et qu'il y a presque à chaque page. Ça permet de donner un petit peu plus de vie, de donner aussi une personnalisation un peu à tous les sujets dont vous parlez. Et est-ce que c'est vous qui faites ça ? Est-ce que vous faites appel à quelqu'un d'extérieur ?
Ouais, complètement. On voulait donner un côté assez coloré parce que l'actualité qu'on traite n'est pas forcément toujours joyeuse, mais c'est pas pour autant qu'elle doit être déprimante, et on voulait donner une vraie touche un peu colorée avec des dessins. Alors c'est pas du dessin de presse habituel ce qu'on fait,
plutôt
du dessin un peu artistique, et en fait ce sont des illustrateurs qui sont tous locaux qui nous accompagnent. Alors au début c'était plutôt les copains de copains qui est dessiné dans la topette. La première année on était tous bénévoles. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui nous ont écrit pour aussi des dessinateurs ou illustrateurs, des graphistes, pour participer à la topette. Et maintenant, il y a à peu près une douzaine, je crois, d'illustrateurs qui tournent, qu'on peut maintenant rémunérer. Et il y a même dans ce numéro, on a fait un partenariat avec l'atelier d'art appliqué à Angers, où c'est des étudiants en fait, qui ont planché sur un article sur Parcoursup. Donc en plus un sujet qui les concernait, et qu'on fait un super boulot. Alors c'était très dur, c'est la première fois qu'on devait choisir entre plusieurs dessins, c'était peut-être un peu cruel pour ceux qui n'ont pas été retenus, mais franchement tous les quatre dessins qui nous ont été transmis étaient publiables. C'était un peu une prise de tête de devoir trancher entre ça.
Alors j'ai une petite question en regardant votre journal, pour le choix des couleurs pour la couverture, le jaune et le noir, est-ce que ça c'est bien justifié ? C'est pour une raison que vous avez
choisi ? Non, pas du tout. Alors, on est vraiment des amateurs en termes de graphisme, colorisation, etc. Au début, on était parti sur un vert, juste parce que la copine qui nous a fait la maquette avait mis un vert comme ça. Et on s'est dit, ça marche bien, on va le garder. Et après, on a essayé de faire une palette de couleurs, de voir d'autres teintes qui pouvaient matcher avec ce vert. Et bref, on est tombé sur 5 couleurs en se disant on va faire tourner en fait. Une fois ce sera jaune, une fois bleu, une fois il y avait un violet, etc. Et le premier s'est trouvé que le jaune ça marchait bien avec le noir, parce que notamment pour se faire connaître, au début on est vraiment parti avec rien. C'est nous, on a mis je crois 700€ pour lancer la première impression. On n'avait aucun financement, aucun centime pour faire de la communication. Et il fallait se faire remarquer dans les kiosques. Et le jaune pétait bien. Et ça a plu tout de suite. Et du coup, maintenant, on n'ose pas le changer parce qu'on est vraiment identifié à ce jaune un peu moutarde et la topette écrite en noir. Donc, on pense qu'on ne va pas le changer. Mais il n'y avait pas de calcul du tout. On n'a jamais fait de marketing ou tout ça. Ça s'est un peu joué au feeling au départ.
Mais c'est vrai que le jaune, c'est une couleur assez attractive. Donc,
et c'est quelque chose qui est rarement utilisé dans la presse. En plus, qui n'est pas connoté politiquement. Ça nous intéressait aussi. Parce que souvent, c'est soit bleu, soit rouge. Ou tout de suite, on met des couleurs politiques. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc le jaune, c'était aussi un moyen de se démarquer d'un peu tout le monde et de nous affirmer.
Mais tiens, justement, en parlant justement un peu politique, des journaux qui vont un peu plus ou moins s'affilier ou avoir une identité politique assez propre, est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez qu'avoir une indépendance justement des partis politiques et des syndicats pour vous c'est extrêmement important ? Est-ce que c'est gage d'une information moins tropeuse ? Ou est-ce que les journaux avec un avis politique très marqué, voire même carrément des journaux militants, sont du coup une mauvaise chose s'ils sont trop...
Alors c'est une question compliquée. C'est pas une mauvaise chose parce qu'il faut justement qu'il y ait de la variété. En France, il y a plein de médias patronaux. Il y a aussi des médias communistes comme l'Humanité. Justement, plus il y a de diversité dans les opinions, plus l'information est riche. Alors nous, effectivement, au départ, dans notre manifeste, on avait écrit qu'on était indépendant, affilié à aucun parti politique, syndicat. C'était aussi parce que personne ne vous connaissait, donc bien faire comprendre aux lecteurs qu'on revendait cette indépendance totale. justement, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait une pluralité des opinions. Mais par contre, un peu le regret que je peux avoir actuellement, c'est que l'opinion est érigée en étendard, et alors que la base du métier de journaliste, c'est l'information, les faits, et l'opinion ne doit pas dépasser justement les faits. C'est un peu notre devise, c'est les faits, rien que les faits. Et on le voit aujourd'hui avec un peu ce qui se passe. On parle beaucoup de Bolloré et de CNews, où justement cette opinion dépasse le métier du journalisme. Et en fait, quand on fait de la discussion comme ça, politique, autour d'un sujet sans vraiment l'avoir étudié, bah, pour nous, c'est pas du tout le métier. Après, il faut pas se leurrer. Le journalisme n'est jamais objectif, il y a forcément une part de subjectivité, rien que dans les sujets qu'on va choisir de traiter, dans les personnes qu'on va interroger, mais en tout cas, il faut au moins essayer de se rapprocher, pas d'une forme de neutralité, mais au moins d'essayer de respecter toutes les opinions. Nous, quand on écrit un article, on se rend compte de choses, on va plutôt avoir un avis dessus, mais on va quand même donner aussi la parole aux contradicteurs. Voilà, c'est une espèce d'équilibre à essayer de trouver, et on espère bien le faire.
D'accord, bah c'est parfait. En plus, vous répondez déjà en bonne partie à ma prochaine question, qui était quel est le rôle des journaux, selon vous, aujourd'hui ? Et même pour préciser, encore plus dans cette période où les fake news sont légion et où les politiciens présentent les choses à leur manière. Bon, après, c'est le rôle des politiciens, on va dire. Mais pour ne pas dire qu'ils mentent carrément à leurs citoyens, et quand c'est l'État carrément qui va mettre les choses d'une certaine manière, notamment par exemple pour la pénurie des masques en 2020, etc. Pour vous, du coup, le rôle de ces journaux, c'est à la fois donc de donner l'information et de pas trop donner leur avis, c'est ça ?
Justement, l'exemple des masques et du Covid, c'est un très bon exemple d'un peu une faillite du journalisme, parce qu'on a vraiment vécu, à mon sens, une espèce de période de propagande, où on cachait justement aux citoyens le fait de cette pénurie de masques, les manquements de la gestion de la crise sanitaire dans les premiers mois de l'année 2020 qui ont été vraiment catastrophiques. Et il se trouve que les médias qui ont vraiment fait leur rôle n'étaient des médias pas institutionnels à ce moment-là, c'était plutôt des médias sur Internet, je pense notamment à Mediapart qui a vraiment beaucoup enquêté, qui a expliqué les raisons justement de cette faillite au niveau du pouvoir. Et le rôle du journalisme, à mon avis, c'est justement de dévoiler les faits, de les faire connaître au grand public, ce qui est justement d'intérêt général. Et ça, c'est un peu un des soucis quand on se parlait, nous, pourquoi on a quitté les médias traditionnels. C'est justement cette forme de connivence qu'on peut malheureusement trouver trop souvent entre la presse et le pouvoir. Alors que non, justement, le rôle des journalistes, c'est pas de relayer la parole du pouvoir, mais de dévoiler des faits, justement, qui servent à l'intérêt général. Et c'est là où on voit qu'une démocratie vit bien, c'est justement quand il peut être révélé des choses au grand jour. Alors après, je vais pas être catastrophique, hein, on est beaucoup plus libre en France en tant que journaliste que dans la Russie, Poutine, oui, par exemple. Mais il faut justement être vigilant, parce que ça reste très fragile malgré tout. On sait pas ce qui peut se passer avec les prochaines élections. Même sous le quinquennat actuel, il y a eu beaucoup d'attaques sur l'indépendance de la presse. Donc il faut toujours rester vigilant, justement, pour qu'on puisse vivre dans une démocratie suffisamment épanouie.
Mais justement, à ce sujet, je voulais vous demander, par exemple, si vous avez une note à attribuer sur une échelle de 10 sur la liberté d'expression en France, quelle serait la note que vous donneriez ?
Eh bien, la France est très très mal classée, hein, dans les classements de Reporters sans frontières. On est derrière sur des pays beaucoup plus autoritaires, notamment ce qui a un gros problème, c'est celle de la concentration des médias. Il faut savoir que les très grands médias appartiennent à une poignée d'industriels, en fait. Ils sont 9 milliardaires à se partager la plupart, pas tous, mais la plupart des grands titres de presse. Et ça, c'est une vraie problématique, parce que si ces industriels investissent dans la presse, c'est pas par philanthropie, hein. Ils vont perdre de l'argent parce que la presse aujourd'hui n'est pas rentable, mais c'est pour assurer leur business à eux, pour assurer une forme de statu quo. Et ça, la France est vraiment pointée du doigt par rapport aux autres pays européens, et la liberté de la presse est beaucoup plus large chez nos voisins. Donc je pourrais pas donner une note, mais en tout cas, on peut clairement l'améliorer. Et moi, j'ai travaillé en Belgique, et il était beaucoup plus facile de travailler. Ici, on le voit même à Angers, hein, l'échelle d'Angers, c'est très dur d'avoir certaines informations qui devraient pourtant être publiques. Voilà. Alors, c'est pas non plus la Russie de Poutine, loin de là, bien heureusement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour s'améliorer. Et je regrette que dans cette campagne présidentielle, la question des médias soit pas un enjeu pour l'instant. Il y a juste un président qui a annoncé vouloir supprimer la redevance télé. Ça, c'est un exemple d'attaque contre la presse, parce que justement le service public a vraiment un rôle d'information, et si on lui coupe les financements, il ne pourra plus faire ce travail dans les années à venir.
Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes senti en danger, vous ou le journal, par rapport aux enquêtes que vous menez? Ça posait problème, par exemple, à des personnes, des entreprises ou...
On l'est toujours, on a un peu toujours le couteau, pas sous la gorge, mais en tout cas l'épée de Damoclès plutôt au-dessus de la tête, parce qu'on peut nous attaquer juste pour nous faire taire. C'est souvent ce qu'on appelle ça les procès bâillons, c'est-à-dire qu'on va attaquer un journal, un journaliste, même si on sait qu'on n'a aucune chance de gagner, mais parce que pendant ce temps, le journal, s'il n'a pas trop de fonds, ça coûte de l'argent d'aller en justice, de se payer un avocat, ça prend du temps, de l'énergie aussi. Donc pendant ce temps, on ne fait pas notre travail d'enquête pour continuer notre boulot. Alors nous, on a été assez vigilants, on a provisionné de l'argent, on a mis de l'argent de côté pour être tranquille si ça nous arrive, mais bon, ça peut toujours arriver, et surtout, ce qu'on fait, c'est d'être sûr que nos infos sont bonnes, sont sourcées, vérifiées. On sort jamais une info comme ça. Si on a la veille d'un bouclage une info énorme, on la sortira pas, parce que ça prend du temps de la recouper, d'interroger les gens qui sont mis en cause. Donc nous, on est sûr que sur notre travail, on sera jamais condamné, parce que on est vraiment vigilant à ça. Donc non, la topette, ça nous est pas arrivé, mais c'était certaines fois, en sortant des enquêtes, ouais, on est un peu vigilant, on fait gaffe. Après, des pressions, elles sont toujours présentes quand on est journaliste. Ça peut aller du simple coup de fil de la personne qui est pas contente à votre chef, ou ça peut être plus pernicieux. Je prenais un exemple précis. Quand j'étais en Belgique, je travaillais donc pour un journal économique qui était publié dans un grand média qui appartenait à la Libre Belgique, et on a carrément coupé mon journal. Ça a été la direction de la publication l'a interdit, parce que je faisais une petite brève qui mettait en cause une banque qui était au conseil d'administration de ce journal. Ça lui a pas plu, et voilà. Donc quand on parle de liberté de la presse qui est fragile, elle est toujours présente, et le lendemain on se retrouve au chômage, en fait, tout simplement. Donc les pressions, elles existent, elles peuvent être très variées, et après, c'est pour ça que je disais que les jeunes journalistes doivent s'attendre, s'ils veulent faire ce métier, à avoir un métier précaire, instable, parce que malheureusement, quand on veut bien faire son travail, on est obligé d'affronter ça.
Et donc La Topette, le journal local populaire et indisciplinaire, à retrouver dans vos kiosques pour le prix très bas de 3 €. Comme quoi, donc il faut foncer, puisque c'est vraiment des dossiers très intéressants. Merci Julien d'être venu à notre micro. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure tout ça?
Non, merci beaucoup. Et puis s'il y a des étudiants qui nous écoutent, on est toujours ouvert. On a une adresse info@latopette.fr pour répondre aux questions des jeunes qui s'interrogent sur le métier, ou même à les rencontrer. On a un local, donc notre porte est ouverte s'ils veulent nous poser des questions là-dessus.
Merci beaucoup. Et maintenant, on se quitte avec la musique que vous avez choisie.
Oui, j'avais pensé à quelque chose. Alors, c'est pas très original en étant Angers, mais on est des gros amoureux de rock de fin des années 80, début 90, dans la rédaction. Et il y a quand même un groupe majeur à Angers qui s'appelait les Togs. Donc, c'est une chanson des Togs qu'ils appellent As Happy As Possible.
Eh bien, parfait, on se quitte avec ça.
Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à écouter notre émission si vous l'avez ratée sur Spotify ou sur radio-g.fr.